Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que le dimanche la jeudi.
Bonjour, vous êtes au Libre Journal de l'école, animé aujourd'hui par Florence Leroux. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le sondage IFOP lancé à l'initiative de la Fondation pour l'école et commenté lors d'un colloque au Palais du Luxembourg le 4 mai dernier. Michel Valadier, le directeur de la Fondation pour l'école, répondra à nos questions. Ensuite, nous échangerons avec Cyril Giordano, l'un des fondateurs de la revue Actuelle, revue bimensuelle adressée aux jeunes gens de 10 à 15 ans. Et enfin, Virginie de Gégère nous présentera l'Académie pour l'école, nouveau nom de l'ILFM, en nous expliquant la raison de cette évolution et en nous présentant les parcours de formation. Mais avant cela, place à l'actualité préparée et enregistrée par Hervé Roland.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Nous commençons comme à l'ordinaire par les actualités en ce 29 mai 2026. Et comme nous sommes à la fin du mois de mai, l'actualité de l'éducation nationale, évidemment, ce sont les examens que les élèves préparent plus ou moins fébrilement. Et les enseignants aussi, j'imagine. Dans sa conférence de presse récente du 19 mai, le ministre Édouard Geffray a rappelé les modalités des examens en 2026. Pour les 854 000 candidats au brevet, donc le diplôme national du brevet, les épreuves terminales compteront pour 60% de la note finale, ce qui relègue le contrôle continu à seulement 40%. Je cite le ministre, ce choix s'inscrit dans une démarche globale de valorisation du travail régulier et de la rigueur des candidats permettant d'inscrire les acquis solidement dans le temps, tout en assurant une meilleure lisibilité de ces résultats pour les familles et les établissements, nous explique Édouard Geffray. C'est un ton assez nouveau qu'un ministre de l'Éducation nationale reparle de valoriser le travail. Le même ministre a annoncé également abandonner la validation dite par compétence du socle commun au profit de la moyenne des notes par discipline pour l'année de troisième. Et une nouvelle épreuve de mathématiques, donc une épreuve de 20 minutes, sera consacrée aux automatismes et la notation sera sur 6 points et un grand retour, ce sera sans calculatrice. Quant aux notes d'enseignement moral et civique, elles seront d'un côté, les notes d'histoire-géographie de l'autre, elles seront donc bien distinctes en 2026. Il en sera de même donc l'année prochaine pour les sciences. Et l'orthographe est une nouvelle priorité affichée par le ministre, puisqu'il dit que la clarté de la rédaction sera, je cite, spécifiquement sanctionnée ou valorisée par plus ou moins 2 points. Il n'est pas dit toutefois comment les correcteurs feront pratiquement, mais au moins le sujet est sur la table. Quant au baccalauréat, comme annoncé, il verra, on a envie de dire enfin, le retour des mathématiques obligatoires et de la sanction écrite. Le baccalauréat sera, lui, présenté par 727 000 candidats, avec l'introduction d'une épreuve anticipée de mathématiques en classe de première, d'une durée de 2 heures, avec, là encore, une partie sans calculatrice. Il va falloir qu'il fasse des maths sans calculatrice, ça va être difficile. Donc cette épreuve sera divisée entre automatisme à acquérir pour 6 points et exercice de raisonnement pour 14 points. Un examen qui se décline en 3 sujets selon le parcours choisi, et ce qui matérialise le retour des mathématiques pour tous, aussi bien dans la voie générale que technologique. Et là aussi, une fois de plus, le ministère insiste sur l'exigence en matière d'orthographe. La maîtrise, je cite, hein, « la maîtrise de la langue française est une exigence transversale dans toutes les disciplines. Une copie dont l'expression empêche la compréhension verra logiquement sa note minorée, car sans la langue, aucun savoir. On est stupéfait de bonheur d'entendre cela de la part du ministère de l'Éducation nationale. Autre point notable et très intéressant, la fin des points jurys dans les corrections. Vous ignorez sans doute, chers auditeurs, leur existence. Eh bien, les points jurys, autrefois utilisés pour donner un petit coup de pouce au dossier jugé, je cite, « méritant », sont désormais strictement plafonnés à 50 points, c'est-à-dire 0,5 points de manière générale. Donc celui qui avait 12 pouvait passer à 12,5, celui qui avait 8, ou celui qui avait 7,5 pouvait passer à 8. Désormais, quiconque obtient une moyenne inférieure à 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves sera automatiquement éliminé, sans possibilité d'accéder au rattrapage. Écoutez cette déclaration, que je préfère appeler solennelle, encore une fois, du ministère. Désormais, l'attribution du diplôme repose uniquement sur les acquis effectifs des candidats, assurant ainsi une meilleure équité entre tous les élèves, quel que soit le lieu de leur scolarisation. Alors le mot scolarisation, on l'a compris, évidemment un autre, ces points jury favorisaient certains candidats, par exemple au hasard ceux parlant un français très approximatif, qui se trouvaient néanmoins diplômés. Toujours à propos du bac, la curiosité annuelle à laquelle nous sommes habitués dans la presse, à savoir le record du plus jeune candidat au bac, dont la presse se fait un héros ou une héroïne, eh bien, je crois que c'est terminé, puisque selon le ministre Édouard Geffray, le plus jeune candidat au baccalauréat 2026 serait âgé de moins de 10 ans, ce qui, visiblement, vouloir fixer un âge plancher, un âge minimal, nous verrons lequel. Remarque personnelle, c'est un petit peu contradictoire de vouloir valoriser le travail et ne pas admettre que certains sont plus doués que d'autres et travaillent plus que d'autres. Tout le monde connaît l'adage, la valeur n'attend pas le nombre des années, et je doute qu'on puisse avoir le bac à 10 ans sans y travailler dur. Opinion personnelle. Passons maintenant aux épreuves des lycées professionnels. C'est loin d'être anecdotique puisque ce baccalauréat professionnel va rassembler près de 200 000 élèves, 194 000. Ces épreuves terminales étant justement fixées ces jours-ci à la fin du mois de mai. Ce bac pro, comme on dit, a subi une réforme avec l'apparition de nouvelles spécialités comme, par exemple, la cybersécurité, les travaux publics, etc., présentées comme un passeport valorisé par les entreprises, ce qui est une très bonne chose pour que ces élèves trouvent rapidement du travail. Et pan, il fallait s'y attendre, ça ne plaît pas aux syndicats et les syndicats rouspètent. Le motif, alors tenez-vous bien, ils y voient, je cite les syndicats, une réduction au profit d'une insertion rapide sur le marché de l'emploi. Et ça leur pose problème. D'ailleurs, à côté du ministre de l'Éducation nationale, Sabrina Roubache, qui est la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, elle-même a souligné, je cite, l'ambition d'accompagner les jeunes pour passer du statut d'élève à celui de professionnel travailleur. Aïe, 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 elle a utilisé le mot travailleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà que le ministère se préoccupe de donner une meilleure qualification aux élèves et même de trouver rapidement un travail. Parce que quand on est mieux formé, c'est mieux, mais ça gêne les syndicats. Et là, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que l'ambition des syndicats est de fabriquer de plus de chômeurs? Allez, je vous le donne en mille. Ils protestent parce que pour eux, l'école n'est pas là pour l'instruction, mais je cite, pour l'émancipation. Eh oui, Marx n'est toujours pas mort. Deuxième sujet, bien grave celui-là, terriblement grave. Le sujet des abus, et tout le monde a compris désormais que nous vivons une véritable onde de choc dans les écoles parisiennes. Le mot abus, on réagit par le dégoût, aggravé par le fait qu'il devient clair que beaucoup savaient et que personne ne parlait. Allons-nous enfin vers la fin de l'omerta? La justice, en tout cas, est saisie. Et la procureure de Paris, Laure Bécuot, a annoncé le dimanche 17 mai l'ouverture d'enquêtes concernant des violences dans plus d'une centaine d'établissements parisiens, incluant 84 structures réparties entre écoles maternelles, primaires et crèches. Oui, malheureusement, j'ai bien dit crèches. Cette situation fait suite à une campagne pendant les élections municipales qui a été très marquée par des débats autour de la gestion du périscolaire. En réponse, la municipalité dit avoir mis en œuvre un plan d'action comprenant plusieurs mesures immédiates, le renforcement du processus de recrutement des agents, une création d'une cellule d'écoute dédiée et la suspension immédiate de tout animateur visé en cas de signalement. Parce que les chiffres ont provoqué cette onde de choc. 78 agents de la ville de Paris ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Et on ne parle que de Paris. Des chiffres équivalents à l'échelle de la France conduiraient, j'en frémis, à 2 500 suspensions, dont près de 1 000 pour des violences sexuelles. Au centre du nouveau dispositif municipal, donc une cellule d'écoute qui, au moindre signalement, entraîne la suspension immédiate de l'animateur concerné. Pour remédier à la situation catastrophique, on a décidé de s'appuyer un peu sur les parents et 80 d'entre eux, tirés au sort parmi plus de 1 500 volontaires, constitueront donc un groupe de travail, un peu sur le modèle de la Convention nationale sur les droits de l'enfant qui avait été lancée l'année passée par Emmanuel Macron. Pendant un mois, cette convention devrait enchaîner les auditions d'experts, de professionnels, d'associations et effectuer des visites de terrain. Le compte à rebours est lancé car ce panel devra rendre ses conclusions le 22 juin. Que l'on me permette une remarque personnelle. Certains ont hurlé contre les écoles catholiques à la suite de l'affaire Bétarame. Curieux procédé consistant à accuser toutes les écoles, il y en a 8 000 quand même des écoles catholiques, à cause de cette affaire ou de quelques autres affaires. Une généralisation, pardon, pour le moins abusive. Bien sûr, on devine que la seule préoccupation n'est pas les victimes, c'est simplement, pour reprendre une expression d'un autre âge, bouffer du curé. Et vous avez dit bizarre, tous ces gens qui ont hurlé contre l'école catholique, quand on parle du périscolaire à Paris, eh bien on ne les entend plus. On ne les entend plus. Où sont-ils passés? Troisième sujet, et je terminerai par ce que j'appellerai une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est une initiative lancée par le groupe parlementaire UDR, d'Éric Ciotti. C'est une proposition de loi relative au calcul des forfaits d'externat qui sont attribués par les collectivités locales aux écoles privées sous contrat. Cette loi permettrait de lever le secret sur de bien curieuses pratiques. Elle est portée par Éric Ciotti en personne, ainsi que son collègue, le jeune député Maxime Michelet, et également UDR, qui est membre même du bureau de l'Assemblée nationale. La proposition de loi de ce groupe parlementaire UDR veut obliger les collectivités à rendre transparent le mode de calcul utilisé par ces dites collectivités locales pour le montant des forfaits d'externat, qui sont légalement dus aux écoles privées sous contrat, lesquelles scolarisent, rappelons-le, 2 millions d'élèves en France. Cette proposition de loi a été évidemment saluée par l'enseignement catholique. Le texte, du reste, rappelle tout bonnement que la loi Debré, 1959, impose de financer ces classes, je cite, « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». C'est la loi. Et pour l'UDR et beaucoup d'autres, cette parité serait tout simplement bafouée. Je les cite, « aucune disposition législative n'impose aujourd'hui aux collectivités territoriales de rendre publiques les modalités de calcul ». Cette lacune n'est pas anodine. Elle est le vecteur principal de l'ineffectivité du droit. Enfin, c'est clair, la loi n'est pas respectée. Les députés en veulent pour preuve que chaque fois qu'un juge administratif ou qu'un expert judiciaire intervient, le montant du forfait est relevé. Autrement dit, un certain nombre de collectivités territoriales trichent. Pourquoi cette proposition de loi maintenant? Eh bien, l'enseignement catholique nous donne la réponse. Ces dotations sont une boîte noire, entraînant des écarts, tenez-vous bien, de 1 à 30 d'un territoire à l'autre, et au total, un manque à gagner que l'OGEC, donc la Fédération des OGEC d'enseignement catholique, estime à près de 900 millions d'euros par an. Panique à gauche en entendant parler de cette proposition de loi. Pour le syndicat UNSA, tiens encore, cette demande de transparence du financement des écoles privées sous contrat est, je cite, une attaque du privé. Et l'UNSA de s'appuyer sur le rapport des députés Vanier et Weisberg de 1924, Vanier, un fanatique de LFI, qui prétendait qu'il n'était pas possible, je cite, de chiffrer avec certitude l'argent public pour financer le privé. Et là, je vais une fois pour toutes dire ce que je pense et rappeler à tous ces braves gens qui commencent à nous casser les pieds, pardonnez-moi. Je vais leur rappeler une vérité, semble-t-il, mal connue. L'argent public n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'argent des Français. L'argent qui vient des impôts et des taxes payées par les Français et par les étrangers en situation régulière. Et les parents d'élèves du privé sous contrat, comme des écoles libres d'ailleurs, font partie de ces payeurs d'impôts, de ces Français payeurs d'impôts. Que l'on arrête d'oser ce culot de prétendre que c'est de l'argent public qui finance le privé. Non, non. C'est au contraire l'argent des Français qui finance l'école publique, dont le niveau ne cesse de baisser. C'est l'argent des Français qui finance les pédagogistes, qui récusent le rôle de transmission des savoirs, qui est le but fondamental de l'école et qui tue l'école. C'est l'argent des Français qui finance les interventions scandaleuses d'associations type planning familial pour parler de sexualité à des collégiens. Et c'est l'argent des Français qui finance 867 000 enseignants, dont plusieurs dizaines de milliers d'élèves n'ont pas d'élèves en face d'eux chaque semaine. C'est l'argent des Français qui finance 70 syndicats dans l'éducation nationale. Nous l'avons évoqué lors de notre dernière émission. Au fait, cet argent, c'est combien? Combien payons-nous pour l'éducation en France, tout compris avec les collectivités territoriales? J'espère que tous les auditeurs d'Aradio Courtoisie sont bien assis. En 1924, l'INSEE nous en a donné le chiffre. 197 milliards d'euros, tout compris. Je répète, 197 milliards d'euros. Budget de la défense, c'est 60 milliards d'euros à peu près, en comptant les salaires. Donc cette année, plus de 200 milliards d'euros et nous avons des clowns qui nous disent que c'est l'argent public. Non, 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 messieurs ou mesdames, c'est l'argent des Français. Il se trouve des syndicats et des responsables politiques pour s'en plaindre. Eh bien, je vais paraphraser Jules Renard. Si l'argent ne fait pas votre bonheur, rendez-le. Chers auditeurs, voilà pour les actualités de ce 29 mai. Rosa, Rosa, Rosa.
Aujourd'hui, je reçois Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école. Bonjour Michel.
Bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, après avoir organisé une convention des écoles libres en mars dernier, vous avez commandité un sondage à l'IFOP sur le thème de ce que veulent les Français pour l'école. Les résultats ont été rendus publics le 4 mai dernier au Palais du Luxembourg. Pourquoi la Fondation pour l'école a-t-elle souhaité réaliser ce sondage à un an de l'élection présidentielle? Et qu'espériez-vous mesurer ou mettre en lumière?
Eh bien, je vous remercie de m'inviter. Le sondage a été commandé tout simplement un an de l'élection présidentielle, parce que les écuries présidentielles travaillent en ce moment sur les programmes des candidats. Nous ne savons pas encore qui sera sur la ligne de départ, mais il me semble important de poser les questions de fond maintenant plutôt que dans 10 mois, parce qu'il sera à ce moment-là évidemment trop tard. Et donc, nous portons à la Fondation pour l'école depuis de nombreuses années un certain nombre d'intuitions et d'idées qui pourraient faire progresser l'école, qui pourraient aider à résoudre un certain nombre de problèmes que traverse l'école. Alors quand je dis l'école, il s'agit de l'école en général, évidemment, aussi bien de l'école publique que de l'école privée. Et nous avons choisi la voie du sondage pour interroger les Français sur certaines de nos intuitions. Voilà pourquoi nous avons commandé ce sondage un an avant l'élection.
Et alors, quel était l'échantillon de Français, justement, qui a été...
L'échantillon de Français, c'est la méthode classique, hein, représentative, la méthode des quotas. Jérôme Fourquet, lors du colloque qui a eu lieu début mai, nous faisait remarquer que sur un panel représentatif des Français, aujourd'hui, 25% sont parents d'élèves, oui. Alors qu'il y a quelques années, ils rencontraient dans les panels systématiquement 30 à 33% de parents.
Oui, grosse baisse.
Donc, Je rappelle aux auditeurs que on n'interroge pas les gens que nous avons envie d'interroger. Les sondeurs qui donnent des résultats qui sont assez fiables dans la mesure où ils constituent des panels représentatifs d'hommes, de femmes, de jeunes, d'anciens, de personnes qui travaillent en ville, de personnes qui, qui ont un niveau social, un niveau de rémunération qui est différent. Et quand on prend ce panel représentatif, eh bien aujourd'hui, il ne reste plus que 25% de parents d'élèves, mais ce sont bien tous les Français qui ont été interrogés. Donc c'est un panel de représentant les Français qui répondu à ce sondage.
Et alors, quels ont été les résultats principaux? Est-ce que vous avez été un peu étonné par certains d'entre eux?
Écoutez, nous avons été surpris, Jérôme Fourquet aussi d'ailleurs, par le caractère massif des réponses des Français.
Oui.
Et je vais vous donner les chiffres, sachant que les auditeurs qui le souhaitent pourront retrouver l'intégralité des résultats sur notre site internet. www.fondation pour l'école et je ne sais plus ce qu'il y a derrière, mais avec ça.
Org,
vous retrouverez facilement votre chemin. Les chiffres sont massifs. Par exemple, 84% des Français sont favorables à un renforcement des pouvoirs des directeurs d'établissement scolaire.
Mmh.
C'est une des suggestions que nous formulons auprès du personnel politique. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit que le ministre publie une note ou une fiche d'orientation pour qu'ensuite l'ensemble du personnel jusqu'au l'instituteur qui se trouve dans son petit village, les choses se mettent en place. Eh bien, nous avons affaire à un monstre, à un employeur qui est un des premiers employeurs mondiaux avec 1 200 000 salariés. À peu près, à quelques dizaines de milliers près, puisque il est très compliqué d'avoir des statistiques précises. Et donc, les choses ne se passent pas ainsi. Et si l'on regarde la réalité en face, l'école pourra être réformée à la condition d'avoir à la tête un ministre qui a le courage de mettre en œuvre un certain nombre de réformes, donner une impulsion qui soit très claire et nette, mais également un ministre qui s'assure que la personne qui est sur le terrain la plus à même de mettre en œuvre ces réformes, qui est le chef d'établissement, eh bien, puisse le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut reprendre les responsabilités de chaque directeur et chaque chef d'établissement et lui donner le pouvoir correspondant. Et 84% des Français sont favorables à cela.
C'est
Donc il y a un
énorme.
bon sens. Il y a un bon sens partagé, aussi bien par les parents que ceux qui ne sont pas ou plus parents, hein, de dire, mais il faut pouvoir donner davantage de pouvoir. Et nous avons posé une deuxième question pour être plus précis. 84%, là aussi, à nouveau, des Français sont favorables à ce que le directeur d'établissement puisse recruter son équipe de professeurs.
Oui, ce qui n'est pas le cas
Or,
aujourd'hui, hein.
aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Tout cela est pris en main par une énorme structure en fonction de l'ancienneté et ce qui donne des résultats aberrants, puisqu'un jeune professeur aujourd'hui va se retrouver dans des établissements plutôt en difficulté où les anciens ne veulent plus aller. Et donc, attendre de cumuler le nombre de points suffisant pour pouvoir bénéficier de l'affectation de leur choix. Donc, on envoie des professeurs sans expérience dans des endroits où l'expérience serait vitale et importante, et on permet à des professeurs très expérimentés de choisir une affectation, et la plupart choisissent des affectations plus tranquilles où l'expérience a moins d'intérêt. Donc, ce système-là, évidemment, doit être réformé. Plusieurs partis politiques mettent en avant l'idée de régionaliser la gestion des personnels, ce qui est une idée intéressante. Mais nous allons un peu plus loin en suggérant à la Fondation pour l'école que, quel que soit le mode d'affectation par secteur, à l'arrivée, in fine, si le chef d'établissement est le patron, il est normal qu'il recrute son personnel, c'est-à-dire les personnes avec qui il va travailler. Et là, on se heurte à une autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le statut des chefs d'établissement et le statut des professeurs fait que le directeur a une responsabilité administrative sur les personnels qui travaillent dans son établissement. Mais il n'a pas toute la responsabilité hiérarchique, puisque la responsabilité pédagogique des professeurs est placé sous l'autorité des inspecteurs. Et donc là, vous avez un système avec à deux têtes, si j'ose dire. Alors, ce n'est pas vraiment à deux têtes, puisque dans les faits, un inspecteur en moyenne, dans l'enseignement public, un inspecteur en moyenne inspecte, un professeur, pardon, est inspecté une fois tous les 8 ans.
Ce qui n'est pas
Donc,
beaucoup.
autant vous dire que une fois qu'il est titularisé, bien évidemment. Et donc, là, il y a une difficulté, ce qui fait que le chef d'établissement qui voudrait adapter son projet pédagogique en fonction de la réalité sociologique de son école et des élèves qu'il a en face de lui, ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il lui faudra embarquer des professeurs qui n'accepteraient de le faire que s'ils sont volontaires et qu'il n'a pas l'autorité. Il peut avoir une autorité naturelle très forte et certains s'en sortent avec le temps, c'est-à-dire qu'un chef d'établissement qui reste un nombre important d'années au même endroit et qui a vraiment la volonté de faire bouger les choses peut le faire, mais la plupart ne s'y risquent pas ou finissent par baisser les bras parce qu'ils se rendent compte l'opposition d'un certain nombre de syndicats d'enseignants.
Et
Donc
alors,
voilà un premier chiffre.
et qu'est-ce que vous préconisez alors? Parce que ça ne peut pas se faire d'un coup. Je crois que vous proposiez de le
Eh
faire sur un
bien,
échantillon. Ou...
disons que alors ça n'est pas dans le sondage, mais c'est dans les propositions de la Fondation.
Oui.
Ce que nous proposons à la Fondation, c'est de faire voter une loi qui d'ailleurs est quasiment prête. Une proposition de loi a été votée en ce sens au Sénat il y a 2 ans pour créer des établissements autonomes, des établissements publics autonomes qui redonneraient par mesure dérogatoire le pouvoir de recrutement au chef d'établissement, qui remettrait le management, au mot horrible, mais bien pratique et utilisé dans la plupart des entreprises privées, le management des professeurs dans les mains du directeur, et pour permettre effectivement au directeur de créer son équipe et de pouvoir avancer. Donc ces établissements autonomes, publics autonomes, s'ils existaient, mais pour cela il faudrait que l'Assemblée nationale s'empare de ce projet, de cette proposition de loi votée au Sénat encore une fois, mais qui n'a pas été reprise par l'Assemblée nationale jusqu'ici. Et ces lois, excusez-moi, ces établissements autonomes publics pourraient effectivement montrer par expérimentation sur la base du volontariat l'intérêt qu'il y a à s'organiser de cette façon dans les établissements. Et les professeurs y verraient même leur intérêt.
D'accord.
Tout le monde serait gagnant dans cette
Ouais.
affaire, et les élèves, évidemment, en particulier.
Donc
Un autre...
autonomie et subsidiarité pour le premier point que vous avez pu
Exactement.
observer.
Exactement. Un autre point qui a été soulevé avec plusieurs questions dans notre sondage est la question du choix de l'école.
Oui.
La question du choix de l'école. Alors, les Français pensent à 64% que La diversification des types d'écoles permettrait de diminuer l'échec scolaire. Donc, si l'on avait la possibilité de choisir son école, parfois en fonction des difficultés que peut rencontrer son enfant, les Français pensent à 64% que cela permettrait de diminuer l'échec scolaire. Mais si on va plus loin, 82%, et là on revient à des pourcentages massifs. Je répète ce que Jérôme Fourquier, qui est le directeur opinion de l'IFOP, nous disait en présentant les résultats. Lorsqu'on atteint 65, 66% et a fortiori plus de 80,
80, oui.
on a une réponse massive qui traverse tous les courants
Politique, âge et sociologique,
et
quoi.
toutes les couches sociales de notre pays. Je donnerai un chiffre tout à l'heure pour illustrer ce propos. Donc 82% des Français pensent qu'aujourd'hui, bien seules les familles aisées ont la possibilité de choisir l'école de leurs enfants, puisqu'il faut payer pour mettre ses enfants dans le privé. Et 66% des Français adhèrent au principe du financement, de mettre en place un système de financement type coupon scolaire pour que chaque famille puisse choisir l'école de leur enfant.
C'est
Alors,
nouveau
le
ça,
coupon
non?
scolaire, pardon?
C'est nouveau dans l'opinion publique française.
Alors, non, parce que des sondages il y a 10 ans montraient qu'il y avait également un nombre
Même,
important
oui.
de Français favorables. Ce qui est nouveau, c'est que cette idée fait son chemin, lentement, je dois dire, mais fait son chemin. Il y a énormément d'opposants. Le principe du coupon scolaire, je n'emploie pas à dessein le mot de chèque scolaire parce que beaucoup de Français pourraient penser qu'il s'agit de leur donner un chèque et puis avec ça, ils pourront acheter éventuellement des fournitures scolaires, mais plus probablement des jeux vidéo ou autre chose. Donc, le système du coupon scolaire est assez simple. Il consiste à laisser les parents inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix, école publique, école privée, agréé tout de même, donc qui a satisfait aux exigences minimales pour avoir cet agrément. Une fois que l'inscription est faite, l'administration de l'école se tourne vers l'éducation nationale qui envoie le montant le montant du coût d'un élève scolarisé, sachant que tous les ans, ce coût est calculé pour un élève du primaire, de la maternelle, du primaire, du collège et du lycée. Et donc, il n'y a pas de mouvement d'argent, évidemment, dans les familles. Les flux financiers passent de l'administration directement vers l'établissement. Et quand l'élève quitte le primaire pour aller s'inscrire dans un collège, eh bien, l'indemnisation, le coupon scolaire est remis au nouvel établissement en fonction de l'inscription définitive. Donc, 66% des Français sont favorables à ce système de financement. Et figurez-vous que 78% des personnes qui votent LFI sont
Oui.
favorables à ce système de financement.
Oui.
Et 90% des ouvriers sont favorables à ce système de financement.
90%. Oui.
Voilà. Et donc, il y a là quelque chose à creuser. Alors,
Et la
malheureusement,
carte scolaire dans tout ça, alors, est-ce
la
que
carte scolaire disparaît,
disparaîtrait?
évidemment. À
Oui.
partir du moment où vous avez le choix, la plupart des parents, évidemment, inscrivent leurs enfants à proximité de chez eux. C'est très vrai pour une école maternelle et primaire. Ça l'est encore à un collège. Pour le collège, pour le lycée, un élève peut peut-être aller un petit peu plus loin. Ce sont des questions. La question de la carte scolaire est une question pour les urbains aussi, hein, il faut bien se le dire, parce que quand vous êtes à la campagne aujourd'hui, c'est plutôt la carte routière qui est en vigueur, c'est-à-dire les autobus qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller récupérer les enfants dans les différents villages et hameaux et pour les conduire à un centre. Un groupe scolaire qui rayonne un peu autour d'un dans un périmètre donné. Mais là où la carte scolaire est aujourd'hui contraignante, eh bien, elle disparaîtrait complètement. Cette question du financement, je voudrais encore en dire un
Oui, bien
petit
sûr,
mot,
c'est un
c'est
sujet.
que le chèque scolaire aujourd'hui est pratiqué dans certains États aux États-Unis et en Suède. Et l'exemple suédois est souvent mis en avant. Et le premier ministre suédois, qui est social-démocrate, c'est-à-dire socialiste en traduction française, est intervenu récemment au Parlement en disant qu'elle avait un problème avec le coupon scolaire, mais le problème n'était pas du tout pour des raisons financières, mais à cause des problèmes d'assimilation et d'intégration de la population musulmane. Parce que de fait, comme ils ont été très généreux dans l'accueil d'étrangers, Aujourd'hui, la Suède se retrouve avec un taux de personnes étrangères ou d'origine étrangère qui est très important. Et ils ont donc décidé de fermer, de limiter l'immigration. Et je parle d'un gouvernement socialiste hein, qui dit cela, hein, qui dit que bah, du coup, nous allons nous posons des questions sur cet aspect-là. Il y a un autre inconvénient du système suédois, je le signale pour les auditeurs qui s'intéressent à ces questions, parce qu'ils le verront, ils le liront s'ils s'intéressent à la question ou s'ils font des recherches. En Suède, des écoles privées peuvent avoir un but lucratif. Et donc, il
Oui.
existe aujourd'hui des chaînes d'écoles qui sont des sociétés, il y a même des chaînes d'écoles cotées en bourse en Suède. Et bien évidemment, ce système-là n'est pas du tout conforme à la culture française. Et ce que nous préconisons, si le coupon scolaire était mis en place, il devrait être réservé aux écoles sans but lucratif, qui sont gérées par une association de gestion, et de façon à régler ce risque, ce danger d'enrichissement au détriment de la qualité du service ou au détriment du bien commun. Ferme
Et
la parenthèse,
oui.
pardon.
Et comment feraient les parents qui ne connaissent pas bien le milieu des écoles et qui auraient des difficultés pour choisir la bonne école pour leur enfant?
Écoutez, vous savez, la plupart du temps, les écoles sont cooptées par réputation, par le bouche à oreille, surtout les petites écoles. Parce qu'on cherche à voir ce qu'il y a à connaître, les écoles qui sont dans le quartier. Donc, un détracteur du coupon scolaire, que je ne citerai pas ici, parce qu'il dit des choses intéressantes par ailleurs, mettant en avant le fait que les Français n'étaient pas capables de choisir l'école de leurs enfants, eh bien, à ce détracteur, j'ai répondu, dans ce cas, il faudrait remettre en cause le droit de vote, parce que si les parents ne sont pas capables de choisir la bonne école pour leur enfant, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de choisir le bon candidat pour diriger le pays. Donc, qu'il y ait des nécessités d'expliquer, évidemment, d'informer, c'est sûr, mais je pense qu'on peut faire confiance au bon sens et des parents qui, contrairement à ce que peut laisser penser une certaine mentalité moderne, ne se désintéressent pas du tout de leur progéniture, au contraire.
Oui, mais après, donc, il y aura des écoles qui auront le vent en poupe et
Oui,
elles seront
c'est
prises
un des
d'assaut.
dangers.
Et donc après,
Oui. C'est un des dangers et c'est la raison pour laquelle je reviens à cette nécessité de donner de vraies marges de manœuvre aux chefs d'établissement. Et les chefs d'établissement qui n'y arriveront pas, eh bien, et qui n'ont pas été choisis pour cela, bah, ils pourront trouver sans doute à être employés à d'autres fonctions. Mais il est clair que le système repose sur la capacité du directeur à embarquer son équipe et à relever un certain défi. Cette émulation que créerait le coupon scolaire est saine dans la mesure où le service rendu irait vers davantage de qualité, une plus grande proximité avec les parents. Et ça, c'est un des
Notre
autres
point,
problèmes
oui.
que nous constatons à la Fondation pour l'école. Et je voudrais saluer, d'ailleurs, à ce titre, je sors du sondage quelques instants, un extrait des priorités émises par le ministre Édouard Geffrey il y a quelques jours, donc dans sa circulaire de rentrée 2026, dans lequel il dit, je cite, c'est également pour cette raison que je souhaite que nous développions une nouvelle relation avec les parents d'élèves. Nous devons en effet les aider à s'impliquer de manière efficace dans le suivi scolaire de leur enfant, échanger régulièrement et les accompagner en confiance lorsque les difficultés et les fragilités s'accumulent. Et après, il a tout un paragraphe pour dénoncer finalement l'effet pervers de la numérisation à outrance, qui fait qu'aujourd'hui, les contacts entre une école et les parents passent par voie de mail.
Oui.
Et ce n'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut saluer l'initiative prise par plusieurs établissements dans le 14e arrondissement de Paris depuis le mois de janvier, qui ont fermé, supprimé les accès
Aux notes et autres. Oui.
aux pronotes, etc., donc un numérisé, pour remettre en vigueur le bon vieux bulletin de liaison
Oui.
papier avec le petit mot du professeur ou de la maîtresse qui va dans le cartable des élèves et qui est remis aux élèves, etc., etc. Et donc, ce sujet-là est vraiment un sujet très, très important. Et par rapport au sondage, et là, je reviens à la question du sondage, sur la satisfaction des Français en matière de communication entre l'école et les parents. 33% des Français considèrent que la communication entre l'école et les parents d'élèves est satisfaisante.
Oui, ce qui n'est vraiment pas beaucoup là.
Et donc, le Le sondage et 4% sont tout à fait satisfaits. Donc, c'est pour vous dire, donc 32% des Français ne sont pas satisfaits et un tiers n'a pas d'opinion. Et donc, dans ce domaine, il y a quelque chose à faire et il est heureux que, indirectement, le ministre ait répondu
On
à
part
cet
du
appel
sujet.
et parle du sujet. Un autre, comment dirais-je, le sondage a abordé d'autres questions qui ont trait davantage aux écoles libres, aux écoles hors contrat.
Oui.
C'est évidemment la discrimination dont font l'objet les parents d'élèves qui mettent leurs enfants dans des écoles hors contrat. Alors, nous avons interrogé les Français sur deux questions. L'adhésion à l'égalité d'accès au dispositif d'aide à la scolarité, ce qu'on appelle les bourses, mais on parle aussi du pass culture,
Oui.
ce pass qui permet d'accéder gratuitement ou à des prix réduits à un certain nombre de musées, etc., etc. 76% des Français sont favorables à ce qu'il y ait une égalité d'accès, quel que soit l'établissement fréquenté. Et donc, voilà un autre exemple de réponse massive des Français qui trouvent injuste qu'un élève soit discriminé sous prétexte qu'il est scolarisé dans une école hors contrat. Je rappelle aux auditeurs qu'un élève scolarisé dans une école libre dite hors contrat passe les mêmes examens nationaux en fin de troisième, le brevet ou en fin de terminale. Et donc il n'y a pas de raison, ils sont régulièrement scolarisés au même titre que leurs petits camarades qui sont dans le public ou dans le privé sous contrat. Puis une autre question posée, toujours en raison des discriminations, et qui est ciblée davantage sur les élèves en situation de handicap.
Oui.
84% des Français considéreraient normal que la prise en charge des élèves en situation de handicap soit la même dans une école publique, privée sous contrat ou libre, privée hors contrat.
Oui, c'est
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque si vous voulez inscrire votre enfant dans une école publique, dans un établissement spécialisé, qu'il n'y a plus de place. Ces établissements sont saturés, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez d'encadrants. Eh bien, si vous inscrivez cet enfant un peu par défaut dans un établissement libre hors contrat, vous perdez toutes les aides qui sont attachées
la
au
scolarité de
statut
l'enfant. Oui.
handicapé de l'enfant. Par exemple, si l'enfant est conduit en taxi le matin à l'école, eh bien, ceci devient à la charge des parents. S'il y a des interventions médicales de professionnels de santé dans l'école pendant la journée pour s'occuper de l'enfant, eh bien, ça doit être pris en charge soit par les parents, soit par l'établissement. Et la fameuse aide assistante scolaire qui est là, assistante éducation qui est là, ce qu'on appelle l'AESH,
L'ESH.
qui est là pour s'occuper de l'enfant qui ne sait pas écrire, qui ne peut pas écrire parce qu'il est paralysé, etc., eh bien, ce poste-là est à la charge exclusive de l'école qui accepte cet enfant.
De
Donc
l'école
là, il y
ou
a
des parents,
un
éventuellement.
scandale, ou de l'école ou des
Oui.
parents, souvent un mixte entre les deux. Et là, il y a un scandale absolu, et les Français l'ont bien compris, puisque le chiffre mythique de 84%
Ouais,
revient
là, ça dépasse tous
au bout
les...
de 84% dans cette...
Et là, qu'est-ce que vous préconisez à la Fondation pour l'école?
Bien, ce que nous préconisons, c'est que l'aide soit apportée non pas en fonction de l'école
Mais de l'enfant.
fréquenté par l'élève, mais en fonction de l'enfant et de son handicap. Donc on revient à une réalité. Est-ce que cet enfant a un statut, est en situation de handicap? Est-ce qu'un médecin est capable de le montrer, de le démontrer? Et à partir de là, il doit avoir les mêmes droits, quel que soit l'établissement, fréquenté.
Et cela, selon vous, c'est facile à mettre en place.
Oui, alors évidemment, ça suppose un petit peu d'argent, mais ça reste marginal, hein. Il n'y a que de 1100 écoles hors contrat en France et ils scolarisent 130 000 élèves. Donc là, on parle de quelques centaines d'élèves. Donc c'est relativement marginal, mais c'est une question de principe. Une
Et
question de
d'équité,
principe.
oui.
Et d'équité. Et de justice. Et de
Justice, oui.
justice.
Et
Alors nous
donc,
avons posé une dernière question, pardon.
oui. Oui, j'allais vous poser la question de savoir si des éléments étaient ressortis aussi lors de votre lors du colloque qui a eu lieu le 4 mai, lorsque vous avez sorti les résultats. Est-ce que des propos
Écoutez,
intéressants sont sortis plus que ce que vous venez de dire?
par rapport à la, euh, par rapport à la, Comment dirais-je, je voudrais dire un mot sur
Une autre.
laissez-moi 2 minutes
Oui,
pour parler
allez-y,
maintenant
allez-y.
d'intelligence artificielle,
Oui,
mais
bien sûr.
par rapport, le colloque a mis en évidence ce que j'ai déjà dit, à savoir que il fallait recréer, replacer correctement la relation entre l'élève, les parents, le professeur. Et qu'aujourd'hui, le positionnement n'est pas bon. Nous avons eu un témoignage très émouvant d'un maire, d'un jeune ancien maire qui a fait 3 mandats, Laurence Bernard, maire du Bec, et qui était maire jusqu'au mois d'avril dernier, et qui nous racontait ce qu'elle était contrainte de faire en tant que maire pour permettre aux parents de revenir dans la boucle ou pour seconder les directeurs des établissements, des 5 établissements scolaires qui sont sur la ville du PEC. Et elle faisait le parallèle avec l'école libre. Il y avait une école libre dans sa commune. Et donc, elle faisait également allusion à l'implication des parents qui est en baisse dans les écoles publiques, mais c'est la question de l'engagement qui est un peu générale, qui est en baisse dans l'école publique, notamment, et ça se voit à travers la question des délégués, des parents délégués. Aujourd'hui, la plupart des directeurs ont du mal à trouver des parents délégués. Un ancien conseiller municipal de cette même commune que je connais bien me disait il y a quelque temps, je suis désabusé parce que lorsque nous étions parents d'élèves de l'école publique du quartier, nous étions très investis dans la kermesse et c'est formidable parce que c'est vraiment une réunion de famille et là tout le monde se rencontrait. Les fameux 3 acteurs dont je parle se rencontrent dans un contexte très particulier à l'occasion d'une kermesse, mais ça crée, hein, du lien, on
Des
a le
souvenirs
sentiment
communs,
de devenir une famille de famille d'une certaine manière. Eh bien, on me disait, je suis désabusé parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas voulu prendre le relais, et puis ça a fini par péricliter. Heureusement, il reste des kermesses dans l'enseignement public, mais il y a des écoles où il est très difficile d'organiser une kermesse, et certaines donc ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles pouvaient être. Donc la place des parents, ça c'est le premier sujet. Le rôle du directeur, là pour le coup, il y a une grande unanimité qui allait dans le sens du sondage. Et puis sinon, nous avons eu le témoignage de la présidente de la Fédération des parents d'élèves des écoles indépendantes, qui elle a beaucoup insisté sur la discrimination dont sont l'objet les parents d'élèves qui mettent leurs enfants dans des écoles libres hors contrat. Mais je voudrais dire un mot sur
Intelligence
l'intelligence
artificielle.
artificielle, parce que de fait, nous avons profité du sondage pour poser la question aux Français. Et je pense que c'est la première fois que l'on interroge les Français sur cette question de l'intelligence artificielle à l'école. Pour creuser la question en ce moment, je puis vous dire qu'il est très compliqué de trouver des documents parlant de l'intelligence artificielle à l'école. Le dernier document le plus célèbre en date publié sur l'intelligence artificielle est l'encyclique du pape
Léo
Magnifica
XIII.
Humanitas, qui est sorti le 15 mai dernier, donc il y a 15 jours, et où il parle assez longuement de l'intelligence artificielle dans son encyclique que j'ai lu. Mais c'est vrai qu'on en parle dans le monde du travail, les conséquences que l'intelligence artificielle va apporter dans le recrutement des jeunes, par exemple, qui ont un esprit critique moins développé parce que moins cultivé que des anciens. Les postes, les emplois qui vont être supprimés pour être remplacés par des robots, des androïdes qui numériques. L'intelligence artificielle, nous avons posé cette question, la question sur ce sujet. Je vais vous la lire, c'est le plus simple. Selon vous, quel sera l'impact à terme de l'intelligence artificielle sur le développement de l'esprit critique et l'apprentissage des fondamentaux pour les enfants? Donc la question que nous nous posons en tant que responsables enfin, entre soutien des établissements et responsable ancien dirigeant d'école, c'est de se dire finalement quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur l'esprit critique et les capacités et les fondamentaux, l'apprentissage des fondamentaux. J'ajouterai un autre élément, mais qui n'était pas dans la question, c'est la capacité pour les adolescents à décider, les enfants et les adolescents à décider et bien décider. Alors le résultat est que 18% des Français considèrent que l'impact sera positif. 66% des Français pensent que l'impact de l'intelligence artificielle dans les apprentissages scolaires pourrait être négatif à terme. Donc il s'agit d'une inquiétude, certains disent d'une peur, Et d'autres ajoutent, mais n'ayez pas peur, vous allez voir, tout va très bien se passer. Je constate que, par exemple, au collège et au lycée, les professeurs aujourd'hui ne donnent plus de fiches de lecture à faire à la maison. Je constate que beaucoup de professeurs ont abandonné les fameux devoirs maison au lycée.
Et il faut réinventer l'école, là, le collège et le
Sauf les
lycée.
professeurs de mathématiques. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire une fiche de lecture à des élèves, vous devez leur donner l'œuvre à lire. Si vous êtes professeur de littérature, vous leur faites lire l'œuvre chez eux et la fiche de lecture doit être faite en classe. Et demain, il faudra vérifier que les élèves n'ont pas dans l'oreille
Une petite puce, une
une petite
oreillette.
puce qui permet de poser la question et d'avoir la réponse par une machine. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, disait lors du colloque, lors de la convention organisée par la Fondation pour l'école le 25 mars, c'était pas il y a pas très longtemps, disait en fait, pour les élèves, il faut, à 90%, l'intelligence artificielle ne doit pas rentrer dans les établissements scolaires, et pour les 10% restants, il faut leur apprendre à faire fonctionner la machine, à savoir comment poser les questions et développer comment dirais-je, le sens critique qui permet de poser la question convenablement. Ce que la plupart des Français sont en train d'apprendre en utilisant une intelligence artificielle gratuite parce que ça coûte moins cher pour leurs besoins domestiques ou pour faire la somme de lequel le calculer un comment dirais-je, préparer des congés ou des vacances ou que sais-je. Donc 66% des Français disent attention, il y a un virage important à prendre avec l'intelligence artificielle et la solution qui consiste à dire l'élève pourra mettre en place un dialogue de type socratique avec la machine est quelque chose que je trouve personnellement mensonger, même si je crois qu'il faut absolument que les professeurs soient formés à l'usage de l'intelligence artificielle et qu'ils puissent, notamment au lycée, mais là, c'est ma conviction personnelle.
Oui.
L'intelligence artificielle pour les professeurs, oui. L'intelligence artificielle pour les élèves, les préparer à utiliser, à apprendre à faire fonctionner cette machine et cet outil quand ils seront au lycée, me paraît largement suffisant. Et d'ici là, eh bien, il faudra s'adapter puisque, comme le disait le pape dans son encyclique, nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui et mon texte risque de devenir très rapidement
Obsolète,
obsolète.
oui.
Puisque les capacités, les possibilités de cet androïde numérique, pour reprendre l'expression peut-être la plus rigoureuse, est compliquée dans la mesure où cet androïde génère lui-même un certain nombre de possibilités. Donc, ça n'est pas qu'un moteur de recherche, c'est très, très clair. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas creusé la question, nous n'avons pas affaire à un super Google, si vous me permettez, cette publicité malencontreuse.
Michel Valadier, pour terminer sur le sondage IFOP, là, quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer finalement en quelques phrases aux hommes politiques qui vous écouteraient aujourd'hui?
Eh bien, je leur conseillerais d'aller consulter ce sondage et de travailler dans les directions que je viens d'évoquer, hein, que je peux résumer. C'est trouver le bon positionnement entre l'école, les parents, l'élève. Ça pourrait passer par une décision. Le prochain gouvernement serait très bien inspiré, par exemple, de renommer. Le prochain Premier ministre, de renommer le ministère.
Oui.
Quand on parle du ministère de l'Éducation nationale, on envoie un message qui est brouillé en direction des parents et des professeurs. Cela veut dire que c'est un ministère qui est là pour éduquer les enfants. S'il s'appelait demain ministère de l'enseignement primaire et secondaire, je pense que le titre serait plus conforme à la réalité et cela permettrait plus facilement de dire aux parents: vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants, vous êtes des premiers responsables. Nous sommes là, nous, école, pour vous aider, mais vous ne pouvez pas abdiquer de votre responsabilité sous prétexte que depuis 30 ans, on vous dit de rester au portail. Il faut créer un nouveau mode de relation entre l'école et les parents. Mais ce changement de nom, il serait purement symbolique, mais il dit beaucoup de choses.
Alors, redites-le-nous. Allez,
Ministère de
redites-nous.
l'enseignement, ministère de l'enseignement primaire et secondaire, puisqu'il existe déjà un ministère de l'enseignement supérieur. Vous voyez, donc la
Oui.
continuité serait parfaite. Et il existe un autre terme, mais qui est utilisé dans l'histoire du XXe siècle et qui pourrait être rejeté en raison justement de cette histoire un peu tourmentée. La première chose. La deuxième chose, renforcer, donner du pouvoir aux chefs d'établissement. Formez-les aussi, accompagnez-les, accompagnons-les de façon à ce qu'ils puissent exercer sereinement ces responsabilités grâce aux pouvoirs qui leur sont confiés. Et de fait, si nous allions demain jusqu'au coupon scolaire, il faudrait s'occuper des chefs d'établissement qui seraient bien embêtés pour faire face à cette émulation et à la concurrence d'autres établissements.
Oui,
Et puis
d'ailleurs, oui, allez, c'est troisième. Oui.
la troisième chose, c'est que les écoles libres hors contrat font partie du paysage éducatif. Donc, évitons de la discrimination. Je vous rappelle que la crise démographique nous fait que devant nous allons perdre 1 million d'élèves en une petite dizaine d'années, en 10 ans, en comptant l'année dernière. 160 000 élèves en moins devraient être, il devrait y avoir 160 000 élèves de moins scolarisés l'année prochaine, en septembre. Les fermetures de classes par milliers vont avoir lieu au mois de septembre dans le public. On parle de 4 000. 5 000 fermetures l'année dernière. L'enseignement catholique, c'est déjà, sa dotation va diminuer de 730 postes l'année prochaine. Donc nous avons déjà 4 700, 4 800, peut-être 5 000 postes. 5 000 classes vont fermer entre maintenant et le mois de septembre. Nous sommes en train de recenser les créations d'écoles hors contrat et les ouvertures de classes. Nous avons recensé 139 projets de création de classes, de création d'écoles, pardon, 139 projets de création d'écoles. Ce qui pourrait amener à 4 à 500 créations de classes. L'année dernière, les écoles hors contrat ont ouvert 400 classes. Donc il y a un phénomène un succès qui se confirme malgré la baisse de la démographie qui touche l'ensemble de la population et de toutes les couches de la population. Et donc ce succès ne peut plus être ignoré.
Merci Michel Valadier. Je pense que nous vous inviterons une autre fois pour que vous nous présentiez la formation des futurs directeurs que vous avez mis en place et qui répond aux besoins dont vous avez parlé. Et
Oui,
nous allons recevoir
merci
dans.
Florence.
Merci beaucoup Michel
Oui,
Valadier.
c'est là. Nous n'attendons pas une 30 secondes,
30 secondes pour parler de
excusez-moi,
cette formation.
peut-être suivant.
Pardon, alors Siri.
30 secondes. Nous n'attendons pas une réforme et la mise en place du coupon scolaire pour nous occuper dès maintenant des directeurs et des chefs d'établissement des écoles privées hors contrat, des écoles libres. Et donc, nous organisons des formations pour les directeurs en poste et pour les futurs directeurs. Nous préparons en essayant de créer un vivier de futurs directeurs. Toute personne qui envisagerait de prendre une direction d'ici 2 ou 3 ans, peut nous contacter. Nous avons des choses à leur proposer. Merci aux auditeurs.
Merci beaucoup Michel
Merci
Valadier. À
Florence.
bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Bonjour Cyril Giordano.
Oui, bonjour Madame.
Alors, vous êtes l'un des fondateurs d'une petite revue qui s'appelle Actuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé cette revue, nous expliquer ce que c'est que ce journal?
Oui, donc Actuel est né il y a 13 ans, finalement de discussions entre parents, entre un groupe de parents dont nous faisions partie. Et la volonté, c'était vraiment d'aider nos enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure, On sentait qu'ils avaient un petit peu de mal à cerner un certain nombre de choses. De les aider à commencer à se forger une opinion personnelle avec l'aide de leurs parents et puis de se bâtir une solide culture générale. Donc au début actuel, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé pour nous, avec un groupe d'amis, pour nos propres enfants. Puis avec pas mal de discussions, on s'est rendu compte que finalement, cet objet intéressait beaucoup de monde.
Oui.
Et donc, d'une initiative pour nous, actuelle, s'est muée vraiment en un service pour les familles et pour les professeurs. Voilà, puisque les professeurs peuvent également l'utiliser pour leurs cours ou pour les exposés de leurs élèves. Et voilà, et en 13 ans, actuelle a grandi progressivement pour compter aujourd'hui 8000 abonnés à sa lettre électronique de diffusion, et puis un journal est téléchargé environ 5 à 8 000 fois, voilà, en fonction, oui. En fonction de son sujet. Donc actuel, c'est un bimensuel d'actualité qui est gratuit et qui s'adresse aux plus de 10 ans. Voilà, donc comme je le disais un petit peu précédemment, c'est téléchargeable en ligne totalement librement et gratuitement sur notre site actuel.fr, et après vous avez deux possibilités, soit vous la lecture en ligne, voilà, vous le téléchargez, vous le lisez en ligne, soit si c'est pour vos enfants et qu'ils ont un accès limité aux écrans et vous leur imprimez, et c'est bien la meilleure des solutions. Voilà, aussi parce que finalement, un hebdomadaire, on ne le lit pas forcément d'une traite la première fois, mais souvent on y revient, on voit bien que les enfants lisent d'abord ce qui les intéresse le plus, et puis après ils reviendront lire la suite. Actuel, c'est 24 pages couleurs,
oui.
Voilà, fait par une maquettiste professionnelle, avec environ deux tiers de pages actualité et un tiers de pages culture. Alors, dans les parties actualité, vous allez retrouver l'actualité France, l'actualité santé, l'actualité Amérique, Asie.
Et pas mal de géopolitique.
Il y a quand même pas mal de géopolitique. Il y a une petite ambition intellectuelle, hein, quand même, c'est actuel. Hein, et ça, on l'assume très bien. Hein. On l'assume très bien. Et puis, vous avez toute une partie également culture. Parce qu'on pense aussi que c'est un vrai service pour les familles et pour les enfants d'avoir accès à des pages littérature jeunesse, par exemple.
Oui, alors, juste pour nos auditeurs, parce que vous avez quand même deux contributrices qui sont patrons d'émissions chez nous. C'est Valérie Daubigny et Sophie Rouberti.
Exactement. Hein. Donc, pour l'histoire de l'art, avec la méthode Apprendre à voir, qui est une méthode vraiment spécialement adressée à des enfants pour les aider à comprendre une œuvre d'art. Et puis également, oui, avec 1, 2, 3 loisirs et Valérie Daubigny, la partie littérature jeunesse, parce qu'on se rendait compte qu'il y a une créativité folle et vraiment des ouvrages de très bonne qualité dans la littérature jeunesse, mais qui ne sont pas forcément toujours mis en avant.
Et donc, vos contributeurs, à part Sophie et Valérie, vous-même, quel est votre profil et quels sont les articles que vous écrivez ?
Alors moi, je n'écris pas directement. Oui. Donc, mon épouse est rédactrice en chef. Moi, je fais beaucoup de relectures dans le fond et dans la forme. Dans le fond, pour vérifier que ce qui va être dit aux enfants est bien correct, équilibré. Parce qu'une des particularités de nos articles, c'est vraiment aussi d'expliquer aux enfants sur un sujet pourquoi on peut penser blanc, pourquoi on peut penser noir, ce qui est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a bien une idée de poser quand même les termes du débat. Donc voilà, beaucoup de relectures et puis de relectures de forme. Ce n'est pas très facile d'écrire pour des enfants. Il faut trouver le juste équilibre entre finalement une bonne ambition intellectuelle. On a des enfants quand même qui sont capables, si on leur explique bien, de comprendre des choses un petit peu compliquées. Donc, effectivement, donc on a une trentaine de contributeurs bénévoles dans cette belle aventure d'actuel. Et on a la coutume de dire que nous n'avons pas de journalistes professionnels, mais que des professionnels journalistes. Voilà, donc tous les gens sont légitimes dans leur rubrique. Oui, longtemps, on n'a pas ouvert une rubrique Asie, parce qu'on avait du mal à trouver des vrais spécialistes de l'Asie pour écrire dans la durée, dans l'actuel. Donc la plupart des rubriques internationales sont tenues par des expatriés. La rubrique santé par deux médecins, le biais spirituel par un dominicain. Enfin, voilà. Vous avez à chaque fois des gens qui sont vraiment spécialistes et on préfère ne pas ouvrir une rubrique que de finalement ne pas trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour tenir ces rubriques.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom là, sur le dernier numéro pour donner un petit peu de chair Vos propos
Oui, alors dans le dernier numéro, ben, on revient sur la loi sur l'euthanasie, également le concours Lépine, parce que les enfants sont souvent curieux, donc on peut ils sont souvent intéressés par ce genre d'innovation. Je retrouve beaucoup d'actu international. Voilà, l'actualité internationale. Finalement, on se rend compte que les enfants entendent des choses dans la radio, dans la voiture, en allant à l'école, dans la cour de récréation, mais ont souvent du mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est là où Actuel va les aider, va aider les parents à leur faire comprendre des enjeux qui sont parfois présentés de manière très compliquée par les adultes.
C'est sûr. Et alors, comment vos enfants, vos propres enfants ont réagi, ou comment réagissent les lecteurs que vous rencontrez, ou les professeurs qui l'utilisent en classe?
Moi, je pense qu'il y a une vraie attente. Il y a une vraie attente. On ne paraît pas pendant les vacances scolaires pour permettre aux gens de souffler un petit peu, aux contributeurs de souffler un petit peu. Et on reçoit généralement énormément de mails pour nous dire « j'ai pas reçu, qu'est-ce qui se passe ?» Les enfants l'attendent. Donc, non, je pense qu'il y a une vraie attente. Je pense qu'on a trouvé notre public aujourd'hui, un public qui est très fidèle, qui en plus est sympa, puisqu'il nous relance, nous encourage. Donc oui, non, je pense qu'il y avait une vraie attente sur ce segment de la presse jeunesse.
Et vous-même, quand vous aviez entre 10 et 15 ans, vous aimiez lire la presse ou...
Alors beaucoup, 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 beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à l'actualité France et internationale, donc je lisais un peu tout ce qui passait.
Avec un adulte à vos côtés qui vous expliquait ou...
Pas forcément, ouais. Non, mais moi j'ai retenu quand même de ma jeunesse qu'on avait des discussions familiales après autour de ça, parce qu'effectivement on ne comprend pas forcément tous les enjeux, on a besoin peut-être d'avoir un zoom à un moment par le haut, et donc c'est aussi un peu l'idée d'Actuel, c'est pas une fin en soi. C'est aussi une manière d'ouvrir des belles discussions en famille, sur un nombre de sujets qui soient culturels, autour d'un livre, d'un film ou d'une œuvre d'art, mais également autour de l'actualité nationale et internationale.
Et comment se passent vos comités de rédaction? Chacun envoie son article
Non, alors comme c'est un journal d'actualité, on commence à J-10, donc quasiment après la parution du dernier, par les pages culture, qui sont beaucoup plus faciles à anticiper. Et le journal commence à se construire d'abord autour des pages culture. Et puis, au fur et à mesure, on va raffiner un petit peu les sujets d'actualité, avec quand même deux gros impératifs. Rester dans l'actualité, oui. C'est extrêmement important, c'est l'ADN du journal. Et ne pas faire que de l'actualité anxiogène. On y arrive finalement très vite. Ça, c'est quelque chose que nous disent beaucoup les parents et les jeunes lecteurs. C'est qu'on trouve aussi des belles choses dans Actuel et pas uniquement de l'actualité très anxiogène et très noire.
D'accord. Et alors, après 13 ans d'existence, quel regard portez-vous sur cette aventure?
Déjà que c'est une aventure, ouais, effectivement, qui se bâtit chaque jour. Une aventure humaine. C'est une belle aventure humaine avec l'ensemble des contributeurs qui sont d'une fidélité incroyable. Malgré des emplois du temps très chargés pour tous, familiaux, professionnels. Voilà, ce qui aide bien mon épouse comme rédactrice en chef. voilà, donc une belle amitié humaine, avec nos lecteurs, avec les parents. Voilà, c'est vraiment ça que je retiendrai. Et puis je retiendrai également que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que quand on a une intuition, c'est pas mal de se retrousser les manches et qu'on trouvera toujours des gens pour vous aider. Voilà, et ça c'est vraiment ce que je retiens un peu aussi de l'aventure actuelle. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à se plaindre. Il faudrait, mais finalement parfois il suffit de mettre les mains un petit peu dans le moteur
et faire le premier pas en avant.
Voilà, et on arrive à créer des belles choses.
Et alors, est-ce qu'il y a parmi vos premiers lecteurs des jeunes gens qui contribuent maintenant à Actuel?
Alors oui, on a à la fois des gens qui y contribuent et puis on a des anecdotes amusantes sur des gens qui y retournent aussi régulièrement. On avait une de nos premières lectrices qui nous disait récemment que pour la crise au Moyen-Orient, elle avait du mal un petit peu à comprendre et à prendre le temps de comprendre ce qui s'y passait. Elle s'est dit, bon, allez, je vais retourner sur Actuel. Au moins, je suis sûr d'avoir un article simple, bien fait. Et en très peu de temps, j'aurai à peu près compris ce qui s'y passe. On a pas mal de mamans aussi. On a pas mal de mamans qui n'ont pas forcément le temps de suivre l'actualité,
oui.
Et qui nous disent qu'elles lisent Actuel et puis qu'elles le lisent avec leurs enfants. Voilà, qu'elles le lisent à leurs enfants à table ou prennent un moment pour faire ça en famille.
Bon. Et donc, oui, on peut le conseiller aux écoles donc de l'imprimer et de le mettre à disposition des enfants. Là,
oui, donc il y a pas mal d'écoles. Ouais. Ouais, donc il y a pas mal d'écoles qui le font déjà, donc que ce soit dans le cadre d'un CDI. On a pas mal de professeurs qui nous ont dit qu'ils le mettent à disposition au fond de leur salle de classe. Il y a toujours des élèves qui terminent un peu plus tôt un ensemble de devoirs ou qu'on n'a pas forcément envie de voir sortir de la classe. Donc, on peut leur donner actuel à lire ou dans des espaces au moment des récréations. Il y a des élèves qui sont toujours un peu plus, pas forcément envie de sortir et donc qui peuvent également prendre le temps de lire actuel à ce moment-là.
Bon. Merci beaucoup, Cyril. Alors, vous pouvez nous rappeler comment on se procurait actuel aujourd'hui, et le prochain numéro sort quand, pour qu'on se précipite?
Alors, le prochain numéro sortira dans 10 jours, donc ça sort le mercredi, voilà, tous les 15 jours, hors vacances scolaires. Ce sera d'ailleurs le dernier numéro de l'année, voilà, qui sera un spécial États-Unis, puisque la Coupe du Monde aux États-Unis va focaliser l'attention du monde entier. Donc voilà, on s'est dit que c'était le bon moyen de faire un numéro spécial, pas du tout sur la Coupe du Monde, mais sur les États-Unis. Il y aura bien plus compétent que nous sur la Coupe du Monde. Et puis, on n'a pas de talent divinatoire. Donc, voilà. Non, donc vous allez sur notre site actuel.fr. L'heure actuelle, ça s'écrit actuiles.fr. Vous pouvez télécharger donc, le dernier numéro et les numéros précédents. Vous avez également, si vous êtes professeur, un moteur de recherche pour trouver un article qui pourrait vous intéresser en économie, en géopolitique. Voilà, on a une œuvre d'art, donc ça c'est extrêmement, extrêmement facile. Tout est gratuit, ça c'était vraiment dans l'ADN du journal, là on ne dépend que des dons de nos lecteurs. C'est d'ailleurs une excellente chose, je pense, parce que ça nous aiguille aussi, ça nous oblige.
Il n'y a plus de dons, c'est que...
Ça nous oblige beaucoup, et quand il n'y a plus de dons, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça nous oblige aussi beaucoup, on les remercie chaleureusement pour leur fidélité, leur amitié. Et puis, vous avez un moyen de ne rater aucun numéro, c'est de vous abonner à une lettre électronique. Voilà, c'est très simple. Vous laissez votre adresse électronique et vous recevez, en fait, à chaque parution, un avertissement comme quoi le dernier journal est paru.
Vous n'avez plus qu'à cliquer.
Et vraiment, mon conseil, c'est bien de l'imprimer.
Oui.
C'est très simple, soit au bureau, soit chez vous. Il y a quand même beaucoup de jeunes familles qui ont des imprimantes aujourd'hui, plutôt en couleur. Parce qu'on fait un gros effort sur la maquette, donc en noir et blanc, c'est quand même beaucoup
moins.
C'est beaucoup plus joli. Et tant bien même, si vous allez chez des gens comme Bureau Vallée ou autre, ou chez les petits imprimeurs, ça vous coûte environ 3 euros. C'est une grosse question. Hein. Beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne passez pas en payant? Parce que c'est beaucoup plus compliqué, déjà. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Deux, parce que finalement, les gens ne sont pas forcément prêts à payer autant. Quand même, dans un budget familial... Un abonnement, c'est quand même à nouveau, ça peut être un gros poste et qu'il suffit d'aller finalement chez un petit imprimeur avec une clé USB et que vous l'imprimez pour environ 3 euros.
Très bien. Oh, merci beaucoup Cyril Urdano et puis nous allons nous précipiter sur la prochaine actuelle.
Merci à vous.
À bientôt.
Voilà.
Au revoir. L'agenda. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Degère. Bonjour Virginie.
Bonjour Florence.
Vous êtes la directrice de l'Académie pour l'école, alors connue jusqu'à présent sous le nom de l'ILFM. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement de nom et quelles sont les orientations que vous prenez avec l'Académie pour l'école?
Merci Florence pour cette question. Oui, effectivement, nous avions, la Fondation pour l'école avait créé il y a plus de 18 ans maintenant un organisme de formation appelé ILFM, Institut libre de formation des maîtres, avec comme vision de former les instituteurs et les institutrices des écoles libres hors contrat. Puis les années passant, les demandes, les besoins se sont multipliés et nous avons vu venir à nous des directeurs, des professeurs du secondaire qui ont eu également besoin de formation. Et donc nous avons élargi notre champ d'action, élargi nos programmes. Avec le temps, ce nom d'ILFM, d'Institut libre de formation des maîtres, ne correspondait plus exactement à ce que nous proposions aux écoles. Et nous avons donc voulu trouver un nom qui à la fois puisse intégrer l'ensemble des personnels et des acteurs du monde des écoles hors contrat et à la fois dire peut-être plus de façon plus lisible que notre parenté avec la Fondation pour l'école.
Oui.
C'est comme ça qu'est née l'Académie pour l'école.
Très bien. Et alors, quel est le votre catalogue de formation? Est-ce que là, vous avez des parcours à présenter particulièrement à nos auditeurs qui souhaiteraient devenir maîtres d'école ou qui le sont déjà et qui souhaiteraient continuer à se former?
Alors effectivement, nous avons un catalogue papier qui a été édité au début du mois de mai et qui a été envoyé à toutes les écoles. Mais nous avons ce catalogue est à retrouver également sur le site de l'Académie pour l'école avec tous nos parcours de formation. Donc nous avons des parcours de formation, comme je le disais, qui s'adressent à tous les publics. Donc nous avons des parcours pour les directeurs et pour les futurs directeurs. Et nous avons plusieurs parcours pour les professeurs du primaire, ça reste encore le point le plus important que nous traitons. Pour les personnes qui seraient en poste à partir de la rentrée, nous proposons à la fois un parcours de formation dédié spécifiquement aux professeurs de maternelle et CP, un deuxième spécifiquement dédié aux professeurs de CE et CM. Et puis en parallèle de ces deux parcours, qu'on appellera des parcours didactiques, hein, c'est vraiment des parcours on appelle des parcours prise de poste, c'est des parcours de prise en main d'une classe. Des parcours où on va faire à la fois de la gestion de classe, de la pédagogie et de la didactique. En parallèle de ces deux parcours, nous en avons un troisième qui s'appelle la formation académique. Là, c'est un parcours qui est, comme son nom l'indique, plus académique, qui permet aux professeurs de se remettre à niveau dans toutes les matières fondamentales enseignées au primaire, donc c'est-à-dire en français, en mathématiques, en histoire et en géographie et en anglais, puisque de plus en plus d'écoles sont à la recherche de professeurs pouvant enseigner également cette matière dès le primaire. Hein, on le sait avec le socle commun, la place des langues vivantes est importante dès le plus jeune âge. Donc voilà, ça c'est notre petite nouveauté, on va dire, de l'année. Et on a également un parcours qui s'appelle le parcours à la pédagogie de l'attention, donc qui est dirigé par Marc-Olivier Sefilla, qui a été formé par Madame Elisabeth Nuitz, et qui a un parcours de pédagogie pour apprendre à renouer entre les enseignements et le réel, voilà, le concret, le réel du monde qui nous entoure.
Alors, si on revient à la formation académique, qui est peut-être celle qui serait la première à suivre si quelqu'un là souhaitait se reconvertir, est-ce que vous
Alors,
pourriez
ça
nous.
dépend évidemment du besoin, mais effectivement, si quelqu'un souhaite se reconvertir après, je sais pas moi, quelques années dans une carrière un peu scientifique et puis qui n'a plus fait de grammaire depuis de nombreuses années, c'est effectivement peut-être la première chose à faire, c'est commencer à renouer avec les fondamentaux, la grammaire, l'analyse, la compréhension de texte, l'orthographe, bien sûr, qui est très très malmenée aujourd'hui. Et puis en mathématiques, avec la numération, la résolution de problèmes, la géométrie et toutes ces questions qui ont peut-être été laissées de côté depuis les années de lycée et peut-être même avant pour ceux qui ont choisi des filières où on ne faisait pas de maths par exemple. Donc voilà, cette formation, ça va être elle va être vraiment indispensable si on a des domaines où on se sent plus faible pour pouvoir enseigner, parce que ce qui est premier dans la transmission, bah, c'est le savoir. On commence d'abord, on ne transmet que ce que l'on connaît, évidemment. Donc, on commence par remettre à niveau ces connaissances via cette formation académique. Une fois que ces connaissances sont solides, effectivement, les parcours de didactique peuvent être là pour vous apprendre à apprendre, pour comprendre une classe, pour comprendre l'élève, une fois que les fondamentaux sont acquis.
D'accord. Alors donc concrètement là pour la formation académique, les personnes viennent physiquement en cours. Est-ce que c'est un programme que vous leur délivrez et il y a des interrogations? Enfin, concrètement, comment ça se passe?
Alors, c'est un programme qui se passe effectivement en présence, avec plusieurs grands points de rendez-vous dans l'année. Un premier qui a lieu fin août, et puis à la Toussaint. Ensuite, en décembre, en février et en avril. Donc, il y a cinq grands rendez-vous dans l'année, avec des cours qui se succèdent, comme voilà, on fait 3 heures de français, 3 heures de maths, etc. Et ces cours sont entrecoupés de temps de devoirs sur table, de devoirs surveillés, de devoirs écrits, pour valider les connaissances des personnes, des participants, qui, entre deux sessions de cours, ont également un programme de révision à travailler depuis chez eux. Donc c'est une formation qui à la fois se passe en présence, mais qui demande un investissement important des participants pour participer à cette remise à niveau qui ne peut pas être faite sans leur concours et leur investissement personnel. Voilà, donc cinq grands rendez-vous dans l'année qui correspondent plus ou moins aux vacances scolaires, excepté en décembre, et des temps qui sont entrecoupés de cours et de devoirs sur table pour lesquels les personnes ont révisé en amont, à partir d'un programme qui a été établi avec le responsable du cours, bien entendu.
Et alors, est-ce que c'est possible de travailler en suivant cette formation ou ça demande vraiment un temps de travail trop important pour...
Alors ça, pareil, tout dépend un peu du profil et de la capacité
Personne.
de travail de chacun. Mais donc, on conseille plutôt, si jamais quelqu'un a un travail, plutôt un travail à mi-temps. Enfin, je parle bien d'un travail dans une école, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des grands temps de disponibilité, en particulier pendant les vacances scolaires. Et puis, sinon, si vous êtes en poste, ça peut être le cas. Il vaut mieux peut-être ne pas avoir un poste à temps plein, parce que ça peut être un peu lourd. Mais là aussi, ça dépend un peu des capacités de travail des uns et des autres et de là où on vient et de son bagage d'origine. Voilà, si on arrive avec déjà un bagage un peu solide, ça peut être fait en parallèle d'un poste. Si on arrive avec un bagage plus léger, il vaut peut-être mieux prendre vraiment ce temps, s'offrir ce temps extrêmement précieux, hein, de remise à niveau, qui n'aura lieu qu'une seule fois dans une carrière, pour être sûr d'être en phase avec ce qu'on va raconter aux élèves, prendre le temps de revoir l'histoire de France, de réétudier la géographie, avant de se retrouver dans sa classe et de voir au jour le jour se dire, ah,
Prendre
j'ai
du
mon cours
recul.
sur Vise, je sais plus rien, il faut que je revoie, etc. Enfin, voyez, donc ça peut être fait dans le cadre d'un poste à temps partiel, à mon sens. Voilà. Mais c'est si jamais cette année-là est consacrée à cette remise à niveau, il y a de quoi s'occuper également.
Oui, donc beaucoup de lectures aussi. Est-ce que vous avez des retours de certaines personnes qui ont suivi cette formation
Oh, les retours sont toujours excellents parce que les personnes déjà disent que ça les oblige à se remettre en situation d'élève, en situation d'apprentissage. Donc nous leur proposons également dans le parcours, il y a par exemple un temps de récitation de poésie. Donc nous leur proposons d'apprendre cinq poésies sur de cinq périodes différentes et nous leur faisons passer un contrôle de poésie comme toutes ces personnes le feront sûrement avec leurs futurs élèves. Donc, bah, évidemment, ce contrôle poésie génère pas mal de stress chez ces adultes et qui se rendent compte de ce que vivent leurs élèves quand bah, il faut se mettre debout devant la classe, réciter une poésie. On oublie. Voilà, c'est un exercice qu'on ne fait plus à partir, enfin même voilà, pour les plus chanceux d'entre nous, nous l'avons fait jusqu'en 6e, 5e, mais depuis c'est très loin derrière nous. Cette manière de réciter vraiment un texte par cœur, en mettant le ton, l'intonation, etc. Donc voilà, donc les personnes disent que ça les... voilà, de se retrouver à faire un devoir de grammaire, à faire une composition de mathématiques, ça les remet dans cette situation où elles savent que leurs élèves seront d'ici quelques mois et les personnes trouvent toujours ça extrêmement riche, à la fois parce qu'elles ont reçu d'un point de vue intellectuel, mais aussi parce que ça les a repositionnés dans ce rôle d'élève, qu'elles redécouvrent d'une autre manière.
D'accord. Donc ça, c'est le parcours formation académique.
Formation académique qui va recommencer la prochaine promotion sera accueillie à partir du 25 août prochain à Paris, dans le 14e. Nous avons de la chance d'être hébergés dans les locaux de l'IPC, à côté de la station Port-Royal, et voilà, ce qui nous permet d'avoir accès à des belles salles de classe et de recevoir un très grand nombre de personnes. Nous ne sommes pas limités en place, donc si certains se posent encore la question, nous serons ravis de vous accueillir. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-juillet.
D'accord. Et donc là, à l'IPC, vous recevez donc les étudiants, enfin les jeunes gens qui veulent suivre, ou jeunes gens plus âgés qui veulent suivre la formation académique, mais aussi donc les autres parcours.
Exactement. Ouais. Tout se passe au même endroit. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les choses en parallèle. Ouais. Voilà. On peut faire plusieurs parcours, il faut faire l'un puis l'autre. Tout se passe au même endroit. Donc, en parallèle de cette formation académique, nous avons aussi également donc ces parcours de prise de poste, que ce soit pour les classes élémentaires ou pour les classes de maternelle et CP, qui se passent au même endroit, aux mêmes dates, aux mêmes horaires. Donc on a fin août, Toussaint. Alors pour le coup, il n'y a pas décembre, c'est un détail, mais février et avril. Donc on a quatre grands rendez-vous dans l'année. Et la spécificité de ces deux parcours, prise de poste et maternelle CP, c'est qu'ils s'adressent vraiment à des gens, pour le coup, qui sont en poste. Hein, si vous n'êtes pas en poste, ces parcours n'ont pas de grand intérêt. C'est des personnes qui ont été embauchées, ces personnes-là, elles, ont ce bagage académique déjà solide, mais ont besoin de familiariser avec des outils professionnels, avec une posture, enfin rentrer dans une posture d'enseignant et, comme on dit, apprendre à apprendre. Voilà. Moi, j'ai un bagage riche en grammaire, mais comment je transmets ce bagage à mes élèves? Comment je fais en sorte que mes élèves s'approprient ce bagage et le fassent leur? Comment est-ce que, alors ça, c'est pour là, voilà, peut-être les classes de CECM, pour des classes de maternelle ou CP, comment est-ce que j'apprends à lire, comment est-ce que j'apprends à écrire, comment je discerne un enfant en difficulté, qu'est-ce que je peux proposer à un enfant en difficulté, comment je fais rentrer un enfant de petite section dans la numération, comment je lui apprends à compter, comment je découvre les fractions avec un élève de CM. Vous voyez, toutes ces questions-là qui, même si elles sont maîtrisées d'un point de vue académique, peuvent être plus difficiles à transmettre d'un point de vue pratico-pratique. Donc là, voilà, nous avons des parthèmes.
Oui.
Et avec la petite spécificité qu'il y a un accompagnement par un tuteur à distance, c'est-à-dire qu'une personne qui est dédiée à chaque stagiaire pour faire un accompagnement dans l'année à raison de 4 ou 5 rendez-vous. C'est des rendez-vous à distance, hein, donc c'est des rendez-vous par téléphone ou par visio. Il y a aussi des rendez-vous avec où on les regroupe, des rendez-vous groupés à 4 ou 5 stagiaires qui peuvent échanger sur leurs difficultés. Et ça, ça a lieu. Donc voilà, ces 5 rendez-vous sont émaillés sur l'année pour permettre à chaque stagiaire d'évoquer avec une personne référente ses difficultés, quels sont les obstacles qui ont été rencontrés, quels sont les défis qu'il faut relever.
Et pour la lecture, par exemple, vous proposez plusieurs méthodes, vous avez une méthode...
Alors, la personne qui forme sur les questions de la lecture est une personne qui enseigne en CP depuis de nombreuses années. Donc, au-delà, évidemment, elle va pouvoir proposer plusieurs méthodes, plusieurs livres de lecture, etc. Mais c'est surtout, elle va s'attacher à préciser les grands principes. Quels sont les grands principes de la méthode de lecture syllabique? Quels sont les dangers d'un apprentissage global? Et comment se fait l'association des lettres? Comment se fait l'association pour arriver de la lettre à la syllabe, comment on apprend correctement une lettre, quels sont les bons gestes à poser pour qu'une lettre qui est un symbole écrit que l'on voit se transforme en son que l'on prononce. Donc la personne va surtout s'attacher aux grands principes, ou mettre en vigilance sur les erreurs à commettre, et puis après présenter toutes sortes de manuels différents qui ont chacun avec des progressions différentes et avec chacun une valeur des atouts différents. Nous ne proposons pas une méthode en particulier, un livre que nous affirmerions que ce serait le seul et l'unique manuels à utiliser, ne serait-ce que parce que de toute façon, les écoles avec lesquelles nous, les stagiaires avec lesquelles nous travaillons, qui viennent en formation, elles-mêmes sont dépendantes de leur direction. Et donc, ce serait les mettre en difficulté vis-à-vis de leur direction si on arrivait avec un modèle unique qui ne pourrait pas être contesté. Donc, voilà, nous laissons toujours les directions libres de choisir leur méthode et nous accompagnons les maîtres et les maîtresses de CP dans l'utilisation de ces méthodes, toujours en leur rappelant les grands principes et les écueils, les difficultés, les défis de cet apprentissage de la lecture.
Et donc pour les personnes qui ne peuvent pas suivre un parcours long comme ceux que vous venez de présenter, vous avez aussi des modules plus courts sur des thèmes.
Alors, au sein même de ces parcours, certaines journées de formation sont ouvertes au public, si on va dire ça, pour parler de façon rapide. Et par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire tout le parcours, vous pouvez décider de ne participer qu'aux journées dédiées à la lecture et à l'écriture, puisque c'était ça dont on parlait aujourd'hui, ou uniquement la journée dédiée aux enfants en difficulté, ou uniquement à la journée dédiée aux maths. Et donc voilà, donc nous accueillons sur certains thèmes, nous ouvrons les portes pour accueillir plus largement des personnes qui n'auraient pas le temps de participer à l'ensemble de ces parcours.
Merci beaucoup Virginie Dugégère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les modalités pour s'inscrire là pour nos auditeurs? Il nous reste quelques secondes.
Ah, quelques secondes. Alors, tout se fait aujourd'hui de façon informatique, c'est merveilleux,
Oui.
via notre site Académie pour l'école. Donc, il faut chercher, vous avez les parcours, vous avez les journées, vous avez les thèmes, toutes les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes. Et en cas de difficulté, toute l'équipe de l'Académie se tient à votre disposition. Vous pouvez nous contacter au 01 82 83 11 88. Nous ferons un plaisir de vous accompagner dans vos démarches d'inscription.
Merci beaucoup. Donc, c'est académiepourl'école.org aussi?
Point org,
Or.
exactement. Pardon.
Merci beaucoup Virginie de Gégère et à bientôt.
Merci Florence, à bientôt.
Au revoir.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Vous venez d'entendre le libre journal de l'école, dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 1er juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.